Merci Sébastien et bonne soirée. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue du grain à moudre d'été. Ce soir, les femmes peuvent-elles être des héros ? Une femme, Carola Rackete, qui, avec son bateau et son équipage, force un barrage de douaniers en Italie. Une autre, Greta Thunberg, qui donne l'alerte sur l'urgence à agir face au réchauffement climatique. Une troisième, Megan Rapinoe, qui gagne la Coupe du Monde de football avec les États-Unis et qui profite de la tribune ainsi offerte pour prendre la défense, entre autres, des personnes LGBT. Et une dernière, Alexandria Ocasio-Cortez, représentante démocrate devenue personnage de bande dessinée, super-héroïne donc. Quatre femmes récemment applaudies, glorifiées, portées au pinacle pour ce qu'elles ont accompli, des actes par ailleurs largement médiatisés. Quatre femmes partant que certains n'hésitent pas à qualifier d'héroïnes. Cela dit, elles sont aussi la cible de critiques, parfois violentes. Elles sont qualifiées tour à tour d'irresponsables, de criminelles. On dit aussi d'elles qu'elles sont dangereuses. Loin, bien loin donc de la figure héroïque, figure sur laquelle nous allons nous interroger, comprendre comment elle se construit, comment elle évolue et pourquoi elle suscite autant d'hostilité, voire de haine. Bref, les femmes peuvent-elles être des héros ? Pour en parler, trois invités. Fabienne Brugère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'Université Paris 8. Vous travaillez entre autres sur la philosophie morale et politique. Vous êtes l'auteur de « On ne naît pas femme, on le devient », livre publié chez Stock cette année. Hélène Breda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 13. Vous travaillez vous sur les identités culturelles dans les médias, dans la fiction, dans les séries notamment. Gianni Averre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en duplex de Lausanne, vous êtes professeur de sociologie de l'image et professeur d'histoire sociale des médias à l'Université de Lausanne.
We have a responsibility, each and every one of us, to take care of every single person, and you need to do better for everyone.
Megan Rapinoe, you're left-footed, crossing and save the day from the back of a girl. A moment sure to go down in history.
Le Conseil européen doit demander la libération immédiate de Carola Rackete. En fait, elle ne devrait pas être vue comme une criminelle, mais comme une héroïne. Elle a sauvé tellement de vies en mer Méditerranée.
La plupart des gens, lorsque l'on parle de bande dessinée, pensent à Superman, Batman ou Wonder Woman. Peu d'entre eux pensent au législateur.
Greta Thunberg est un héros. Ce qui est fait est absolument incroyable, ça change le discours sur le problème. Ce sont les jeunes qui ont le plus à perdre et le plus à gagner, et c'est pour cela qu'ils mènent le mouvement. Et nous devrions tous les soutenir.
She saved so many lives in the Mediterranean Sea.
You know, Greta Thunberg is a hero.
Superman, Batman, Wonder Woman.
Voilà, en musique, quelques paroles médiatiques ou médiatisées qui affirment le statut d'héroïne des quatre jeunes femmes évoquées en introduction. Greta Thunberg, Carola Rackete, Alexandria Ocasio-Cortez en personnage de bande dessinée donc, et Megan Rapinoe, à la gloire de qui la chanson que vous entendez encore a été écrite. Est-ce que ces femmes, ces quatre femmes, sont pour vous, Fabienne Brugère, des héroïnes ?
Des héroïnes et surtout pas des héros. Dans un premier temps, puisque le terme justement existe au féminin, il est important de l'utiliser. Ce sont des femmes assez différentes. Le personnage de Carola Rackete, ça décrit une réalité qui est du côté du secours des vies humaines, du côté de l'affirmation aussi du courage de tenir tête à des états qui ne veulent pas justement accueillir des migrants.
En l'occurrence, l'Italie de Matteo Salvini.
Donc là, on est vraiment dans le personnage d'une femme qui, dans le cadre de son travail humanitaire, puisqu'elle appartient justement à une ONG, déploie un courage que l'on peut tout à fait associer à l'image de l'héroïsme. Et donc, un courage qui aboutit à une grande action. En ce qui concerne les autres, ce qu'on peut dire pour Megan Rapinoe, c'est qu'on est davantage dans le cadre, disons, d'une figure médiatique qui utilise les médias pour pouvoir justement affirmer un certain féminisme, pour pouvoir affirmer un droit des minorités, y compris des minorités sexuelles. On est sur un combat qui est davantage un combat politique. Mmh. Et dans le cas de Meghan...
d'Alexandria Ocasio-Cortez, voilà, et Greta Thunberg.
Voilà, dans le cadre des deux dernières, bon là on est face à de très grandes figures médiatiques qui portent des messages, mais qui sont aussi quelque part, en ce qui concerne justement en particulier Ocasio-Cortez, qui c'est quand même une femme politique. Mmh. Donc on est aussi dans un autre registre.
Le courage, la grande action, puis les médias et la politique, voilà quelques-uns des ferments de notre discussion aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Jenny Avert, rapidement, et je vous repose la question parce qu'on va développer tout ce qu'a commencé à dire Fabienne Brugère. Mais rapidement, est-ce que les quatre figures évoquées, qu'on vient d'évoquer, sont des héroïnes pour vous?
C'est une question plus compliquée qu'elle n'apparaît au début. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'élément qui lie ces quatre figures, c'est avant tout un esprit militant, un idéal. L'héroïcité, elle est là peut-être plus pour certaines figures, je pense notamment effectivement à Carola Rackete, dans lequel il y a cet acte symbolique qui implique aussi une prise de risque peut-être plus marquée que dans les autres, que pour les autres personnages, qui pousse cette figure un peu vers le schéma de l'héroïcité. Alors moi je ferais quand même la distinction entre le masculin et le féminin en adaptant le masculin aux femmes. Pourquoi je fais ça?
C'est-à-dire en gardant le mot héros sans le féminiser, voilà, mais pour les femmes. C'est ça?
C'est ça. Héros féminin. Je pars du principe que le terme héroïne, et il suffit de feuilleter Larousse pour se rendre compte, n'a pas la même définition que le terme héros. Le terme héros renvoie au geste de bravure. Larousse cite même, parfois par l'usage des armes, il y a l'exploit, et c'est quelque chose qui renvoie à un type de figure qui s'est construite dans les siècles passés autour de figures masculines et qu'aujourd'hui, disons, ça fait quand même quelques décennies, il est aussi employé, il débarque quelque part dans l'univers féminin. Or, lorsqu'on pense au terme héroïne, de nouveau je répare de la définition toute bête du dictionnaire, mais c'est aussi dans nos esprits, et puis surtout dans nos esprits que cela devient opérationnel, c'est plutôt des éléments qui font référence à la noblesse de sentiment, la conduite exemplaire, supporter dans la difficulté. Donc voilà, élévation morale. On trouve ces éléments de valorisation. Je trouve que c'est quelque chose de très qui diminue beaucoup la portée d'une héroïcité féminine et du coup. Le fait de parler de héros masculin, ce n'est pas utiliser le masculin pour un personnage qui a son équivalent féminin, pour une fois d'ailleurs, mais c'est plutôt mettre en évidence le fait qu'on a failli à définir une héroïcité féminine qui soit, disons, comparable à ce qu'on entend par une héroïcité, masculine. Voilà. Donc, je garderai cette petite distinction qui est purement formelle, qui nous aide à penser.
Oui, mais qui est très intéressante, effectivement, et qui va faire réagir, j'imagine, Fabienne Brugère, à qui je vais donner la parole en quelques instants. Avant cela, on vous a pas encore entendu, Hélène Breda, sur cette question, savoir ce que vous pensez de ces quatre figures, et puis ensuite, aussi votre réaction à ce qui vient d'être dit.
Oui, alors ces quatre figures, effectivement, qui ont pour particularité, d'émerger un peu en même temps dans l'espace médiatique, c'est finalement ce qui va les rapprocher plus que, comme le disait Fabienne Brugère, leurs actions, même leur posture et leur rapport à ce qu'on va appeler l'héroïsme. C'est peut-être un hasard, et peut-être pas tant un hasard que ça, si l'espace médiatique leur accorde cette place au même moment, parce que finalement, ce ne sont pas les premières, ce n'est pas parce qu'on ne les voyait pas avant qu'il n'y avait pas déjà dans l'ombre toutes sortes de femmes qui menaient des actions comparables, qui avaient des engagements comparables.
Est-ce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de figures héroïques féminines ou non?
Alors, faudrait faire une étude quantitative que j'ai pas forcément menée. On peut avoir en tout cas un effet d'accumulation, un effet de sédimentation dans les médias actuellement, qui correspond, oui, à cet espace qui va être donné tout à coup, qui se construit aussi culturellement à la confluence de plein de phénomènes différents. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle moi je vais plutôt rejoindre Fabienne Brugère sur l'emploi du terme héroïne, parce que finalement, j'entends les arguments qui ont été donnés sur les définitions qui sont différentes selon qu'on parle de valeurs masculines ou valeurs féminines, mais c'est aussi peut-être parce que dans l'histoire, on n'a pas laissé à ces valeurs, entre guillemets, codées comme masculines, chez les femmes, l'espace et la possibilité de se déployer. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas. Donc, cette visibilité, il est temps qu'on la donne, et c'est pour ça que pour moi, il est temps qu'on utilise ce terme d'héroïne.
Alors, on va revenir sur le récit médiatique que vous évoquez, Hélène Bradat, parce que c'est très important dans cette construction de la figure héroïque féminine. Juste avant de vous donner la parole, Fabienne Brugère, un rappel. Le mot héroïne dans la langue française est apparu assez tard, dans la seconde moitié du XVIe siècle, sous la plume de
Ronsard. Avec Ronsard, voilà. Dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, justement, la première occurrence effectivement du terme d'héroïne, c'est bien chez Ronsard, mais c'est pour justement donner la définition suivante, à savoir une femme qui s'est distinguée par une grande action. Donc il y a bien l'idée de la grande action, de ce qui définissait aussi le héros. Avant, même si le héros, lui, était davantage associé à un chef de guerre. Bon, les images privilégiées des héros, c'est bien sûr Ulysse, c'est Agamemnon, c'est-à-dire les chefs de la guerre, les chefs militaires de la guerre de Troie. Mais malgré tout, à partir du moment où surgit à ce moment-là la notion d'héroïne, je pense qu'il n'y a pas de raison. Ça fait quand même très longtemps. Il n'y a pas de raison après de ne pas l'utiliser, d'autant que après tout, que ce soit Jeanne d'Arc en France du point de vue des personnages historiques ou que ce soit Boudicca du côté, disons, de la Grande-Bretagne, et là on remonte au 1er siècle avant, au 1er siècle après Jésus-Christ, ce sont bien des héroïnes des histoires nationales.
Au-delà de ce choix de mots, héroïne ou héros féminin, essayons de comprendre quelles sont les caractéristiques de cette héroïne. Vous en avez déjà évoqué certaines. Jenny Avert, selon vous, qu'est-ce qui caractérise ce héros féminin, pour reprendre votre expression?
Oui, moi je ne remplace pas héroïne par héros féminin. J'utilise héros féminin en plus de héroïne pour marquer, enfin, ce moment où il y a eu une sorte d'hybridation entre les deux modèles. Ce qui caractérise le terme d'héroïne, bon, déjà c'est une notion qui a énormément été utilisée dans le cadre fictionnel. Je pense qu'on peut pas réfléchir le terme de héros-héroïne sans réfléchir au récit et au cadre fictionnel. Donc c'est au fond quelque chose qui est rapporté à l'actualité. Il va de soi que l'actualité agit en mettant un récit quand même, l'information. Mais en plus, lorsqu'il s'agit d'actes exceptionnels, le référent effectivement c'est celui du récit. Or, dans le récit, le terme de héroïne est souvent là aussi un peu avec un certain statut, disons, disons d'infériorité par rapport au statut des héros. L'héroïne, c'est une protagoniste d'un récit. Et très souvent, on se rend compte que c'est pas la protagoniste principale, c'est plutôt le premier protagoniste féminin, le protagoniste principal étant très souvent, pas toujours, un homme. Alors que le terme héros ne s'applique pas dans ce cas-là. Monsieur Bovary n'est pas le héros du roman Madame Bovary. Le terme héros aussi s'applique plus particulièrement, de manière plus forte, à des personnages qui sont des personnages d'action. Moins le terme héroïne. On aurait plus de difficultés à définir un personnage campé par Woody Allen héros par rapport à un personnage campé par Schwarzenegger, par exemple. Donc on a des implicites qui peut-être vont disparaître, parce qu'effectivement, cette figure d'héroïne d'action, ou de héros féminin, si on veut utiliser l'autre terme, commence à s'imposer de plus en plus dans la fiction. Alors, du moment que c'est un personnage qui nous est devenu familier dans la fiction par des Lara Croft, par des Béatrice Kiddo et j'en passe, à ce moment-là, ce personnage commence à exister beaucoup plus aussi dans l'actualité, dans les nouvelles. Le terme héros, héroïne, par ailleurs, peut-être le dernier bémol que je voudrais amener, est un terme bon, est extrêmement polysémique. Hein. Bon, héroïne, ça veut oui. évidemment dire la substance, la drogue. Voilà. Mais aussi, par exemple, quand vous dites à quelqu'un « tu es mon héros », vous n'êtes pas en train de le définir en tant que héros dans le terme spécifique, vous êtes en train de le valoriser. Donc c'est un terme qui est aussi extrêmement employé pour valoriser une personnalité, un personnage, quelqu'un avec qui on se sent très proche et qui prend les devants de la scène médiatique. Mmh.
L'héroïne donc, le récit médiatique ou le récit fictionnel, Hélène Breda, l'action, la grande action, disait Fabienne Brugère, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui arrivent à qui définissent ce qu'est une héroïne?
Je vais rejoindre tout à fait ce qui vient d'être dit, effectivement, sur l'action et sur cette notion de, je pense, de leadership, de mener finalement l'action, d'être meneur de l'action, et ça c'est quelque chose qui en fiction est très prégnant. Les héros ou les héroïnes, quand il y en a, même si on fait bien de souligner leur rareté ou en tout cas leur infériorité numérique pendant longtemps, ce sont des personnages qui ont une trajectoire narrative dans la fiction dont ils sont moteurs, où ils vont mener l'action et à plus forte raison entraîner d'autres avec eux. Donc c'est vrai que dans un très très large pan de tout ce qui est fiction traditionnelle, c'est un rôle qui incombe à l'homme et les femmes sont soit en soi leur trajectoire narrative qui va être modelée ou influencée, infléchie par les actions du héros et par ses intérêts. Donc elles peuvent être finalement quantité négligeable, être soit intérêt amoureux, soit mourir ou être blessé parce que ça fait souffrir le héros et que du coup ça va justifier ensuite sa série d'actions. Donc c'est cette notion de leadership qui est extrêmement intéressante.
Est-ce qu'on peut appliquer cette notion de leadership dont vous parlez pour la fiction à l'actualité et revenir donc à ces figures dont on parle? Il y en a d'autres, hein. On a pris quatre figures, mais il y en a d'autres aussi.
Pour moi, oui, c'est justement ce qui va faire qu'on va pouvoir faire le lien entre la fiction et l'actualité réelle, c'est cette notion de leadership, alors réel ou apparent, après il faudra aller voir comment ça se passe dans la cuisine, mais Megan Rapinoe est capitaine de son équipe, Carola Rackete est capitaine de son bateau, Alexandria Ocasio-Cortez est élue au Congrès, donc elle a un pouvoir politique. Alors elle est contre la majorité présidentielle aux États-Unis, mais en tout cas, elle a un pouvoir politique, donc elle va
aussi... La majorité
aussi...
présidentielle au Sénat, hein, pas à la Chambre des
représentants. Oui, pardon, excusez-moi. Ouais. Oui, je veux dire, elle est dans...
Contre le président.
Elle est contre le président, voilà. Pardon, c'était mon propos, bien sûr. Et Greta Thunberg est montrée comme étant à la tête d'un mouvement écologique.
Mouvement de jeunes, oui.
De jeunes, effectivement, qui va les inciter à faire la grève pour le climat, à ne plus aller à l'école, à prendre leur destin en main, contre, cette fois, les adultes. Donc, on retrouve complètement cette notion de leadership pour les quatre figures qu'on a retenues ici.
Le leadership, l'action, le récit. Et puis, Fabienne Brugère, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, le courage, voire le courage physique aussi. Est-ce que c'est une dimension qu'on retrouve chez les femmes héros?
Oui, le courage qui forcément n'est pas toujours d'ailleurs visible, qui peut être aussi un courage du quotidien. Après tout, Pénélope faisant et défaisant sa tapisserie tous les jours témoigne d'une répétition d'actes qui sont des actes courageux eu égard aux prétendants qui justement attendent. Donc c'est le courage est important. Je crois que ce qui est important aussi, et on en a peut-être pour l'instant un peu moins parlé, et à mon sens tout autant pour le héros que l'héroïne, c'est le fait de vivre des aventures, d'avoir un tempérament aventurier. Et c'est très amusant de voir dans le cas de Carola Racketeux dans le grand entretien qu'elle a donné au Spiegel. C'est intéressant de voir d'entendre la voix de son père. Son père disant de toute façon c'est une aventurière. J'ai eu beaucoup plus peur en fait quand elle a campé le long de la Grande Muraille de Chine seule. Et je crois que cette notion d'aventure, qui ne sont d'ailleurs pas forcément les mêmes dans le cas des héros et des héroïnes, mais il y a toujours cette idée de l'aventure. Et de ce point de vue-là, par exemple, Jane Eyre, chez Brontë, est bien une aventurière, parce que précisément elle vit une vie où se succèdent des événements qui sont liés au fait qu'elle part, qu'elle arrive, qu'elle repart, et donc cette dimension aussi de l'aventure, elle est déterminante dans le statut de l'héroïsme.
L'aventure et la quête aussi, Jenny Avers, ça aussi c'est un marqueur du côté de la figure héroïque.
Oui, la quête, disons, si on prend la figure classique de l'héroïsme fictionnel de récit, la quête est fondamentale. On s'est rendu compte aussi que les femmes héroïcisées dans le passé, c'est ça la nouveauté, disons, qui a commencé un peu avec les médias et la littérature au début du XXIe siècle. Les femmes, par le passé, agissent. La quête était une quête par procuration, une quête par. Prenons l'exemple d'une des premières super-héroïnes, même la quasi première super-héroïne qui est Wonder Woman. Wonder Woman agit, ses actes héroïques sont parce qu'elle est tombée amoureuse d'un pilote américain. Donc elle n'est pas du tout américaine, hein, elle vient d'une île d'Amazon, mais elle épouse cette cause par amour. Et on peut remonter jusqu'à Jeanne d'Arc qui est l'héroïne par excellence, hein, de l'histoire française, mais Jeanne d'Arc, elle agit certes, mais elle est avant tout agit et elle entend des voix qui lui disent quoi faire. Et je pense que la grosse transformation et dont il faut se réjouir, pourvu qu'elle tienne, c'est que là, les nouvelles héroïnes ou les héros féminins sont devenus maîtres de leur quête. C'est-à-dire, ils ne sont plus agis, elles agissent plus à l'ombre de quelqu'un d'autre, elles agissent véritablement pour des idéaux ou pour une vision qui est la leur. Donc ça, c'est un élément important, et c'est un élément que, tiens, elle s'applique aux quatre figures de l'actualité autour desquelles aujourd'hui on est en train de discuter.
Hélène Bradin.
Oui, absolument, effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pardon, sur la fiction et sur le fait d'avoir une trajectoire qui est modelée, infléchie par d'autres, ou qui est véritablement la sienne par volonté propre. Et là, je rejoindrai une notion qui est beaucoup utilisée en études de genre, forcément sur la fiction, mais qui est la notion d'agency, ou qu'on va traduire parfois par agentivité, donc capacité d'agir. Et la question de l'agency, de l'agentivité féminine, est fondamentale dans les réflexions autour du féminisme au sens large, et peut être appliqué à la fiction aussi, parce que justement, ça permet de sortir de ce carcan d'une tradition millénaire où les femmes ont été soumises à la volonté et au contrôle masculin, et on arrive progressivement à s'emparer de ce pouvoir d'agir, de cette capacité d'action, pour enfin parvenir à mener sa propre quête, si on veut reprendre la terminologie, sa propre trajectoire.
Encore quelques mots sur cette définition de l'héroïsme ou de l'héroïcité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, comme le dit Jenny Avers. Fabienne Brugère, en regardant ces quatre figures d'actualité, on voit qu'elles rencontrent beaucoup d'opposition, qu'elles sont la cible de critiques, d'attaques. Est-ce que la figure héroïque se construit aussi de manière inévitable dans l'adversité ? En opposition à quelqu'un, à un groupe ou à des idées.
Oui, sans doute, parce que forcément, dans la figure de l'héroïsme, il y a toute l'idée de ce que l'on veut accomplir, de ce vers quoi on veut aller. Et ça, ce n'est jamais quelque chose qui, justement, fait consensus. Et de la même manière, l'une des grandes figures de l'héroïsme, c'est le chef de guerre. Le chef de guerre qui, d'ailleurs, c'est là que l'histoire est plus plurielle qu'elle n'y paraît, qui, dans le cas de l'histoire de l'Angleterre, est une femme. Boudicca libère ce qu'on appelle à ce moment-là la Bretagne, largement le Norfolk et autour, en tant que chef de guerre, elle libère du coup son pays des Romains, et c'est une figure totalement féminine de la guerre. Il y a cette idée de la guerre, et cette idée de la guerre, forcément, ça va avec des amis et des ennemis. Et je crois que dans les quatre figures actuelles, il y a bien cette idée quelque part de forme de guerre. C'est la guerre contre Salvini et contre ceux qui sont justement opposés aux valeurs d'hospitalité dans le cas de Carola Racketeux. C'est la guerre contre le sexisme dans le cas justement de cette joueuse de football justement américaine. C'est la guerre contre les climato-sceptiques pour Ocasio-Cortez, bien sûr, et aussi pour Greta Thunberg. Donc il y a bien évidemment des amis et des ennemis, et puis il y a derrière de toute façon un tel système médiatique que ce système médiatique lui-même de toute façon diffuse, reproduit, multiplie les clivages déjà apparents.
Alors on va revenir sur ce récit médiatique, je vous l'ai déjà dit. Maintenant qu'on a défini à grands traits les caractéristiques de cette figure héroïque, je voudrais qu'on parle du domaine de l'héroïsme. Et vous en avez déjà parlé à l'instant, Fabienne Brugère. Domaine de l'héroïsme sur lequel je voudrais d'abord vous faire écouter quelques paroles. Celle de Megan Rapinoe, donc l'une des femmes dont on parle depuis le début de cette émission. C'était juste après la victoire des États-Unis à la Coupe du Monde de football, au début du mois. Elle était l'invitée sur CNN d'Anderson Cooper, et elle adressait à cette occasion, à la demande d'ailleurs du journaliste, un message au président Trump.
Je pense que je dirais que votre message exclut des personnes. Vous m'excluez. Vous excluez les personnes qui me ressemblent. Vous excluez les personnes de couleur. Vous excluez les Américains qui vous soutiennent peut-être. Je pense que nous ne pouvons pas ignorer votre message et ce que « Make America Great Again » implique pour vous. Make America Great Again. I think that vous revenez à une époque qui n'était pas bonne pour tout le monde. Ça aurait pu être génial pour quelques personnes. Peut-être que l'Amérique est géniale pour quelques personnes en ce moment. Mais ça n'est pas pour assez d'Américains dans ce monde. Et nous avons des responsabilités, chacun d'entre nous. Vous avez une incroyable responsabilité en tant que chef de ce pays de prendre soin de chaque personne, et vous devez être le meilleur pour tout le monde.
Voilà les quelques mots de Megan Rapinoe dans le grain à moudre d'été sur France Culture. Un message politique clair adressé à Donald Trump, un message contre le président américain que Megan Rapinoe d'ailleurs a eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises sur scène dans les médias après la victoire de son équipe à la Coupe du Monde. C'est le cas aussi dans un autre contexte, mais d'Alexandria Ocasio-Cortez, de Greta Thunberg, de Carola Racketeux. Elles portent toutes un message politique. Est-ce que la figure héroïque ne se pense aujourd'hui, Jenny Avert, qu'en rapport avec un sujet politique?
Peut-être pas toujours. Hein. Un exemple relativement récent de complètement dépolitisé, au niveau du personnage qu'il a accompli, pas de ce qu'on en a fait, bien sûr, c'est celui de Mamadou Goussama, hein, le Malien qui avait sauvé ce gamin qui était en danger. Là, c'est typiquement le cas dans lequel c'est le geste héroïque pour sauver une vie. Donc le politique est pas absent, puisque c'était un sans-papier, donc parfois... Par conséquent, il y avait un lien avec une vision politique. Mais bon, ça c'est le fait divers, l'héroïsme dans le fait divers. Alors là, on est face à un héroïsme qui est beaucoup plus prégnant. Les mots de Rapinoe qu'on a entendus coulent de sens pour un regard ouvert européen. Donc évidemment, il y a une adhésion qui est difficile de ne pas avoir. Généralement, disons en Europe, on est extrêmement critique par rapport à la politique de Donald Trump, est donc quelqu'un qui a conquis le droit de prendre la parole par l'action, donc par le sport dans ce cas-là, du coup a un droit supplémentaire de pouvoir avoir une parole politique. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, on revient à ce lien que vous évoquiez, qui là est flagrant, l'action donne le droit à la parole politique. Et dans l'autre sens, l'action est d'autant plus noble
qu'elle est motivée par un idéal, disons, noble et politiquement correct pour les récepteurs.
Hélène Breda.
Oui, je suis absolument d'accord. Et effectivement, ça reste assez difficile, même si c'est pas impossible, comme vient de le prouver Monsieur
Avert,
pardon, avec l'anecdote effectivement du fait divers. Mais c'est assez difficile de découpler ça du politique dans la mesure où tous les exemples héroïques contemporains dont on parle depuis tout à l'heure, on est finalement dans des luttes non pas forcément contre un grand méchant. On pourrait éventuellement donner cette casquette à Donald Trump dans le cas des Américaines, mais on n'est pas forcément face à un grand méchant, un grand ennemi incarné, mais on est dans une lutte contre les systèmes de domination. Mmh. Que ce soit le rapport aux réfugiés qu'on ne veut pas accueillir, que ce soit les jeunes générations qui veulent se battre pour leur futur, que ce soit voilà Megan Rapinoe pour les droits LGBT et Ocasio-Cortez également pour les droits des minorités aux États-Unis, on est dans des luttes qui s'inscrivent dans des rapports sociaux de domination.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle beaucoup, encore une fois, restons aux États-Unis, d'Alexandria Ocasio-Cortez ou de Megan Rapinoe, qui sont considérées par une partie de la population comme des héroïnes. Donald Trump, à l'inverse, est considéré aussi comme un héros par certains de ses partisans, Fabienne Brugère.
Ah, c'est pour ça que je ne suis pas sûre, finalement, que sur ce grand champ de bataille politique, le terme, finalement, d'héroïsme soit tout à fait adéquat. Il s'agit de figures qui défendent une conception de la société, qui défendent des messages politiques. Dans le cas de Megan Rapinoe, certes, il y a tout un point de ces messages politiques qui paraît très évident pour les Européens, mais en même temps, quand elle dit il faut des salaires égaux dans le domaine du football entre les femmes et les hommes, je ne crois pas que même dans le milieu européen, ce soit quelque chose d'aussi évident que ça. Et donc, c'est peut-être pas des héroïnes, c'est peut-être plutôt des femmes qui ont pu être médiatisées par des actes significatifs qui ont été accomplis, qui à ce moment-là déploient aussi une analyse critique de la société, la possibilité d'agir autrement.
Avant de venir aux médias, une petite chose, puisque pour aller dans votre sens, Fabienne Brugère, souvent, quand certaines personnes parlent de ces quatre jeunes femmes, et particulièrement Greta Thunberg, je vais prendre cet exemple-là, la qualifie d'icône, de passionnariat, voire
d'égérie
aussi, et non pas d'héroïne. Qu'est-ce que cela signifie ?
Ah ben, je pense que ça renvoie à notre société actuelle qui passe son temps justement à fabriquer des icônes, c'est-à-dire des personnes bien identifiées qui portent un message simple mais essentiel. Mmh. Et effectivement, on est bien dans ce cas de figure. Et c'est sans doute pas l'héroïne, parce que précisément l'héroïne, c'est celle qui vit des aventures. Et c'est celle qui déploie vraiment sa vie comme une œuvre quelque part.
Mmh. Hélène Breda.
Personnellement, j'aurais peut-être tendance à proposer la terminologie de role models, role models qui seraient peut-être plus pertinentes pour ces cas-là, puisque finalement.
Role model, c'est-à-dire un modèle à suivre.
Un modèle inspirant. Mm-hmm. Modèle inspirant parce que finalement, l'héroïsme, entre guillemets, de ces femmes, c'est aussi construit dans la réception médiatique, dans ce que le public va en faire, va s'en emparer, va dire on a besoin de gens comme ça, ces personnes m'inspirent, ces personnes vont dans le sens de mes idéaux et je vais les admirer pour ça. Donc c'est le côté réception, l'importance de la réception pour moi est extrêmement important dans cette construction de persona finalement qui sont à mi-chemin entre la personne réelle et la figure héroïque un peu traditionnelle.
Alors les médias, hein, on l'évoque, on les effleure depuis le début de cette émission, venons-y. L'essentiel, disent certains qui travaillent sur ce sujet, n'est pas tant dans les actions réellement accomplies que dans leur mise en valeur, concernant encore une fois les actes héroïques. Et c'est là aussi qu'intervient le rôle des médias, donc le rôle du récit. Ces combats, ces actions, ces grandes actions qui sont aussi perçues comme positives ou qui sont singulières, sont de plus en plus médiatisés, sont de plus en plus visibles. Les sujets traités aussi sont de plus en plus nombreux. Tout cela grâce ou à cause, ça dépend de là où on se place, des médias de masse. Parmi ces médias, commençons par les réseaux sociaux. Et je me tourne là encore vers vous, Hélène Breda. Qu'est-ce qu'ils ont changé, les réseaux sociaux, dans la perception qu'on a de ces actions et éventuellement de ces figures héroïques ?
Alors, mon hypothèse, c'est que les réseaux sociaux ont permis depuis plusieurs années de justement apporter des voix, d'ailleurs pas une seule, mais des voix dissonantes prenante par rapport aux médias traditionnels hégémoniques qui voilà, sont l'incarnation d'une certaine approche de l'actualité, d'une certaine pensée hégémonique. Et les réseaux sociaux permettent de mettre en lumière des événements différents ou de traiter des événements qui sont traités dans les médias traditionnels de manière différente, avec des approches critiques, avec des nuances qui ne vont pas forcément être apportées. Donc ça va mettre au jour tout un ensemble de questions et de réflexions autour de l'actualité qui permet de ne plus avoir une vision monolithique. Non pas que les médias traditionnels donnent tous la même version et tous le même bord politique, la même coloration, bien sûr. Mais malgré tout, les réseaux sociaux font apporter des strates supplémentaires par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça que, du coup, ces nouveaux médias numériques vont permettre de mettre en lumière des personnalités qui n'avaient pas de visibilité avant. Et ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas pour autant.
Jenny Aver, est-ce que vous aussi, vous faites cette nuance?
Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'aimerais revenir sur l'idée des jurys, parce que je la trouve intéressante, mais aussi un piège potentiel. Je trouve qu'effectivement, la figure symbolique et non pas la figure d'action pourrait repousser ces figures féminines du rôle, disons, d'héroïne vers un autre rôle qui était longtemps incarné par la féminilité dans la construction des identités nationales, qui est celui de l'allégorie. Et effectivement, ces identités nationales qui sont construites à partir du XIXe siècle sont basées sur deux individualités personnifiées, l'allégorie féminine et le héros national masculin. En Suisse, on a Guillaume Tell et de l'autre côté, on a Helvétia. Alors, n'importe quel Suisse peut vous raconter l'histoire de Guillaume Tell. Par contre, Helvétia, elle n'a pas d'histoire. Mmh. Elle est là en tant que simple représentante d'autre chose. Alors, je pense que l'action est quelque chose d'important. Alors, bien sûr, toutes ces femmes, c'est des femmes d'action, mais attention à ne pas en faire uniquement des symboles, parce que je pense qu'on enlève un élément qui est, je pense, important dans leur spécificité, dans leur particularité.
Fabienne Brugère.
Je crois que ce qu'il faudrait ajouter, c'est que dans la manière dont les médias, mais alors là, que ce soit les réseaux sociaux ou la télévision ou la presse ou autre, je crois que dans la manière dont les médias se rapportent à ces figures féminines, ils redéploient en même temps un caractère conventionnel du féminin. C'est-à-dire que, en même temps, pour les quatre, on essaie toujours de mettre en avant leur rapport justement aux autres, société de l'inclusion, pourrait-on dire pour notre footballeuse. Dans le cas de justement notre démocrate américaine, elle dit bien qu'elle est venue à la politique justement pour aider les autres et on met ça énormément en avant. Dans le cas de Greta Thunberg, c'est ce souci du monde. Et puis, dans le cas de Carola Rackete, c'est le fait de sauver des vies et donc de venir directement en aide précisément à des migrants qui sont soumis au danger de mort. Donc, il y a en même temps dans la manière dont tous les médias, je pense, se rapportent à ces héroïnes, l'idée de bonté et de bonté des femmes comme souci des autres ou souci du monde qui se redéploie.
Hélène Bredard.
Oui, c'est ce qu'on appelle le care, évidemment. Vous avez travaillé dessus, vous en parlerez sans doute mieux que moi, mais effectivement, on va finalement détourner ou tordre comme ça la notion d'héroïsme pour faire entrer des valeurs qui sont socialement, traditionnellement codées comme féminines. Avec tout ce que ça va supposer d'essentialisation de l'instinct maternel, par exemple.
Parce qu'à l'inverse, les femmes, et je pense là à Jeanne d'Arc, par exemple, les femmes désignées comme héroïnes reproduisaient adaptaient des caractéristiques du héros masculin, avec des traits de virilité, le combat, l'armure, vous y faisiez référence aussi avec Boudica tout à l'heure, Fabienne Brugère. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un modèle intrinsèquement féminin de l'héroïsme? Fabienne Brugère.
Alors, je ne sais pas s'il existe un modèle intrinsèquement féminin de l'héroïsme. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il y a un héroïsme dont on devrait parler, c'est celui des vies ordinaires des femmes. Celui des vies ordinaires des femmes, avec tout ce à quoi elles sont généralement obligées, c'est-à-dire travailler comme les hommes, mais s'occuper aussi soit de leurs parents, soit de leurs enfants, soit justement des autres. Et donc, je crois qu'il y a à ce titre un héroïsme de la vie ordinaire des femmes qui n'est pas quelque chose de naturel, hein, qui est quelque chose qui a été construit par l'histoire et par les positions que l'on a généralement conférées aux femmes, que l'on devrait célébrer et dont on devrait parler. Ça me semble vraiment, vraiment important. Et ça correspond peut-être d'ailleurs à des expressions dans la vie ordinaire, comme l'expression de femme courage ou de mère courage, qui renvoie toujours à des destins extrêmement anonymes et justement sur lesquels la luminosité médiatique ne se fait généralement pas.
Jenny Avert.
Oui, alors peut-être sur le discours médiatique qui ramène à une forme de féminité classique ces figures. Là, je suis rentré il n'y a pas longtemps d'Italie, donc j'ai suivi les événements liés à Carola Rackete sur les chaînes italiennes, et j'étais extrêmement énervé, non pas par le discours qui était plutôt positif en général vis-à-vis de ce personnage, par le fait que cette personne était toujours appelée Carola. Tout simplement Carola. Donc, en renvoi au prénom, hein, la familiarité du féminisé, extrêmement souvent. Alors que, évidemment, si c'était un Karl Rackete, ça aurait été le capitaine Rackete ou, voilà. Et c'est vrai que, même dans des petits, des petits détails, mais qu'ils ne le sont pas, puisqu'ils impliquent quand même une manière de penser, on voit effectivement l'envie très souvent de ramener à des valeurs féminines une forme d'héroïcité qui est certes sexuée, mais qui n'est pas forcément genrée.
Hélène Breda, pour reposer autrement la question, est-ce qu'on a pensé les femmes du côté de l'héroïsme aujourd'hui ?
Il faut le faire. En tout cas, il y a des choses. Je pense que c'est en cours. Je pense que c'est justement en cours et que c'est quelque chose qui reste encore en friche à faire. C'est un
truc. Puisque vous avez travaillé dessus, je me permets de vous relancer. Est-ce que tout ce qu'on voit au cinéma avec les super-héros, Captain Marvel, Wonder Woman, on l'évoquait tout à l'heure, ou même certaines figures féminines chez Disney dans les années 90, Mulan, ou plus récemment Rebelle, là, cette jeune princesse aux cheveux roux, est-ce que ça aide aussi à changer le regard?
Je le pense. C'est mon hypothèse. En tout cas. Il y a une demande, je parlais de réception tout à l'heure, j'y reviens, il y a une vraie demande avec un plébiscite pour ces personnages de la part d'une partie des publics parce que justement, voilà, des femmes d'action, des femmes qui ne sont plus juste soit l'intérêt amoureux d'un héros premier, soit protagonistes comme les princesses Disney des années 50-60 à la Cendrillon, mais qui sont complètement passives et finalement qui attendent qu'on les sauve, et là on est vraiment dans tout le trope narratif des contes de fées. Donc il y a une demande de personnages plus inspirants, je reviens à ma notion de rôle modèle. Notamment de la part des publics féminins, mais peut-être pas seulement. C'est aussi intéressant de le penser en ces termes-là. Donc, il y a une demande, et on voit que cette demande a été entendue au fil du temps par la production. Vous parliez de Disney qui a tenté Mulan dans les années 90. Avant, il y avait même eu un renouveau avec La Belle et la Bête et La Petite Sirène dans les années 80, mais ça restait un petit peu mesuré. Et puis, les princesses les plus récentes, il y a cette volonté, ça reste quand même relativement mesuré chez Disney. Il y a aussi ça, voilà, chez Marvel, avec Captain Marvel, des personnages comme ça. On a appris cette semaine ou la semaine dernière que dans le prochain Thor, ça serait Thor au féminin, puisque c'est Jane Foster qui... Donc là, c'est canon par rapport au comics, aux bandes dessinées. Mais voilà, donc le personnage du Dieu Tout-Puissant qui va avoir une incarnation féminine, etc. Il y a une demande, ça c'est sûr. Et donc, oui, pour moi, c'est complètement lié, puisqu'on voit même dans les réceptions, notamment sur les réseaux sociaux, je pense titre personnel à Twitter, où on va avoir des rapprochements dans certains commentaires entre des héroïnes de fiction comme Captain Marvel et des héroïnes réelles comme Megan Rapinoe.
Il nous reste une minute, Jenny Avert.
Oui, juste peut-être, les comics sont un très bon exemple de comment on plaque le modèle de l'héroïcité masculine, à l'héroïcité masculine. Captain Marvel, par exemple, il naît dans les années 30 chez Facette, c'est un homme. Il est repris chez Marvel en tant qu'homme avec un costume différent, et aujourd'hui, on en fait un personnage féminin, mais dans un moule qui est déjà masculin. Thor, pareil, on va couler la féminité dans un modèle masculin. Et ainsi de suite, hein. Il y a un She-Hulk qui est un Hulk féminin, et par hasard, elle n'est pas musclée, elle est plutôt, il a plutôt des formes généreuses, elle reste verte. Donc il y a effectivement à la fois la volonté de mouler sur le masculin, en gardant l'élément ultime de la féminité pour la société du spectacle, qui est au fond l'attirance corporelle vis-à-vis d'un public masculin. Donc de ça, on n'en est pas encore sorti.
Oui, il y a encore du travail, on le voit bien. Merci à tous les trois. Fabienne Brugère, philosophe, professeure à Paris 8, Hélène Breda, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 13, et Jenny Avert, professeure de sociologie de l'image à Lausanne. Merci à nos amis de la RTS pour ce duplex. Grand merci également à la formidable équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Stéphanie Villeneuve, Léa Capuano, Margot Leridon, Aliette Ovine, Roxane Poulain, Valentin Berg et Thomas Jost, notre réalisateur. Mise en onde, Jean-Guilain Meige. Pour réécouter cette émission, de possibilités, l'application Radio France et le site franceculture.fr. Lundi, c'est Julie Gacon qui prendra les commandes de l'émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez à l'écoute de France Culture. Dans une minute, Matière à penser, ce sera avec Antoine Garapon.